Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 21 janvier 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Le président Donald Trump, investi hier lundi en tant que 47e président des États-Unis, a marqué son retour par une série de décrets. Le nouveau président des États-Unis a promis hier, dans son discours d'investiture, de taxer les pays étrangers pour enrichir les citoyens américains. En République démocratique du Congo, des combats entre l'armée et les rebelles du M23 font rage à une vingtaine de kilomètres de Goma. Au Niger, le ministre de la Communication a levé la suspension de la chaîne de télévision privée Canal 3 TV et de son rédacteur en chef, Seyni Amadou. Et dans notre partie magazine, notre correspondant sur le continent, nous ferons le tour pour recueillir les avis des uns et des autres sur le retour du président Donald Trump à la présidence américaine.
Donald Trump, c'est quelqu'un qui prône l'Amérique aux Américains, donc je ne pense pas qu'on puisse attendre beaucoup de choses de lui, honnêtement.
L'arrivée de Donald Trump va changer beaucoup de choses, même psychologiquement. Le monde bouge et nous avons l'espoir.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président Donald Trump a investi hier lundi en tant que 47e président des États-Unis a marqué son retour par une série de décrets symbolisant un tournant dans la politique américaine. Il met fin au télétravail des fonctionnaires fédéraux, accorde la grâce à des centaines de prévenus ayant attaqué le Capitole en 2021, réintègre Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme, retire les États-Unis de l'OMS, élève les sanctions contre les colons israéliens en Cisjordanie. D'autres mesures sont attendues. Le point avec Eric Manilakis.
Parmi les mesures phares, un décret de grâce en faveur de centaines de personnes condamnées pour leur implication dans l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Qualifiant ces individus d'otages, le président Trump a annoncé près de 1500 grâces et commutations de peine. Cette décision a été vivement critiquée par l'ex-présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Trump a également décrété l'état d'urgence à la frontière sud, promettant des expulsions massives et la reprise de la construction du mur avec le Mexique. Dans une autre mesure, Trump impose le retour au bureau des fonctionnaires fédéraux à plein temps. Les chefs de département doivent immédiatement prendre des mesures pour mettre fin au télétravail, précise le texte publié sur le site de la Maison-Blanche. Par ailleurs, il a officialisé la sortie des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dénonçant une gestion qu'il juge déséquilibrée en faveur de la Chine. Le président Trump a également promis des droits de douane de 25% sur les importations mexicaines et canadiennes en réponse à l'immigration illégale et au trafic de fentanyl. Côté social, Donald Trump a réaffirmé sa volonté de restreindre les droits des personnes transgenres. À partir d'aujourd'hui, les États-Unis reconnaissent uniquement deux sexes définis à la naissance, a-t-il déclaré, tout en annonçant la suppression des aides fédérales pour les programmes de diversité. Sur le climat, il a confirmé une nouvelle sortie de l'accord de Paris et décrété une urgence énergétique pour stimuler la production nationale d'hydrocarbures. Donald Trump a remis Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme, une mesure critiquée par la Havane comme un mépris de la vérité. Lors de son discours d'investiture, Trump a promis de reprendre le canal de Panama, qualifiant l'accord de 1977 ayant transféré son contrôle au Panama de cadeau insensé. Cette déclaration a été vivement rejetée par le président panaméen.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a promis hier, dans son discours d'investiture, de taxer les pays étrangers pour enrichir les citoyens américains. Jacques Aristide.
J'entamerai immédiatement la révision de notre système commercial afin de protéger les familles et les travailleurs américains, a déclaré le 47e président des États-Unis juste après avoir prêté serment au Capitole à Washington. Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous imposerons des droits de douane et des taxes aux pays étrangers pour enrichir nos citoyens, a-t-il poursuivi. Le président Trump annoncera une politique commerciale qui donne la priorité à l'Amérique, a par ailleurs indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué ajoutant que le pays ne serait plus tributaire d'organisations étrangères pour sa politique fiscale nationale qui punit les entreprises américaines, selon elle. Donald Trump avait déjà promis des droits de douane de 25% sur tous les produits en provenance du Mexique et du Canada. Les deux pays sont théoriquement protégés par un accord de libre-échange signé durant son premier mandat. Donald Trump justifie ce projet en invoquant l'entrée aux États-Unis de drogues et de migrants clandestins. Par rapport à la Chine, le président Trump a fait part de droits de douane relevés de 10%, s'ajoutant aux taxes déjà en place.
Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza s'est maintenu lundi après un premier échange d'otages contre des prisonniers palestiniens qui a marqué le début d'un long processus devant mettre fin à 15 mois de guerre. Dès que les armes se sont tues dimanche, l'aide humanitaire a commencé à affluer dans le territoire palestinien en ruine, pendant que des milliers d'habitants de Gaza se précipitaient pour retrouver leur maison. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, suspendu de ses fonctions, va assister mardi pour la première fois à une audience dans son procès en destitution, a indiqué l'un de ses avocats, avec au bout du chemin la perte définitive de son titre et son retour aux affaires. Monsieur Yoon s'est vu confisquer le pouvoir le 14 décembre par l'Assemblée nationale, qui a adopté une motion de destitution contre lui pour son éphémère imposition de la loi martiale 11 jours plus tôt.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des combats entre l'armée de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 font rage à une vingtaine de kilomètres de Goma. Plus de 200 blessés, majoritairement touchés par balles ou par des tirs d'obus, ont afflué depuis début janvier à l'hôpital de la capitale du Nord Kivu, selon le CICR et des sources locales. Le point avec Eddy Sango.
Hier, des affrontements étaient en cours dans les collines de Sake, à seulement une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Des détonations résonnaient au matin jusqu'à Goma. Des sources locales évoquent des combats également en cours autour de Minova, ville des 65 000 habitants séparée par une quarantaine de kilomètres de Goma. La chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge dans la province du Nord Kivu, Myriam Favier, soutient qu'on en est à 211 patients. Les équipes médicales du CICR, en charge de la chirurgie de guerre à l'hôpital de Goma, ont multiplié des opérations au cours des dernières semaines. Les combats se poursuivent aussi sur les territoires des Masisi, où l'armée tente de répandre la cité dans une contre-offensive qui a encore accentué une nouvelle vague massive des déplacés dans la région. Quelques 237 000 personnes ont fui leur foyer depuis début janvier dans l'est de la RDC, selon l'ONU. La population étant notamment chassée par une utilisation de part et d'autre d'armes lourdes dans des zones densément peuplées. Médecins sans frontières a déploré hier dans un communiqué un tir de roquette sur ses installations adossées à l'hôpital local qui a fait 2 blessés dimanche. Selon des sources sécuritaires sous couvert d'anonymat, l'intensité des combats est actuellement à un niveau inédit depuis des mois avec un nombre de morts important et l'utilisation d'artillerie lourde.
Au Niger, le ministre de la Communication a levé la suspension d'une importante chaîne de télévision privée et de son rédacteur en chef qu'il avait annoncé après la diffusion d'un sujet sur l'efficacité du gouvernement. Le point avec Michel Joseph.
Le ministre a levé les sanctions et Seni Amadou devrait être libéré, a déclaré le directeur général de Canal 3 TV, Ismaël Abdoulaye. Le président du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger a confirmé la levée de la double sanction. La diffusion des programmes de la chaîne a repris à 18h30 locale, selon un journaliste de l'AFP. Le ministre Sidi Raliou Mohamed avait suspendu la carte de presse du rédacteur en chef de Canal 3 TV, Seni Amadou, pour 3 mois et les programmes de la chaîne pour 1 mois. Reporters sans frontières se dit soulagé. L'ONG avait appelé lundi à la libération immédiate de Seni Amadou et dénoncer ce qu'elle appelle les suspensions illégales du journaliste et de la chaîne. Le directeur du quotidien L'Enquêteur, Idrissa Soumana Maïga, et la journaliste Samira Sabou avaient été emprisonnés il y a quelques mois avant d'obtenir une libération provisoire.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Georges Léonard Sagno.
La croissance du PIB du Niger sera de 6,5% en moyenne en 2025-2026, soutenue notamment par la production agricole et les exportations de pétrole selon la Banque mondiale. Mais si l'inflation persiste, l'extrême pauvreté pourrait atteindre presque 50% d'ici 2026, prévient-elle. Elle ajoute que l'économie nigérienne a fait preuve de résilience, en partie grâce à l'intervention proactive des autorités, notamment pour assurer le paiement des salaires des fonctionnaires. L'entreprise publique pétrolière nigériane NNPC prévoit une augmentation de la production du tapette à 50 000 barils par jour en janvier, 60 000 en juin et 80 000 d'ici fin 2025. Nous sommes vraiment intéressés de voir si nous pouvons conclure un contrat à terme avec les raffineries d'Europe et de la côte est des États-Unis, dont nous avons constaté un appétit significatif pour les cargaisons, a déclaré Lawal Sadé, directeur général du négoce de la NNPC. Le sommet africain de l'énergie se tiendra les 27 et 28 janvier à Dar es Salaam, en Tanzanie. Il examinera les moyens de répondre aux besoins énergétiques de l'Afrique, où près de 600 millions de personnes vivent toujours sans accès à l'électricité.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Le Genoa annonce l'arrivée en prêt de Maxwell Cornet.
Oui, l'international ivoirien de West Ham a rejoint le Genoa dans le cadre d'un prêt, selon l'annonce faite par le club italien. Maxwell Cornet, qui peut jouer défenseur ou ailier sur l'aile gauche, était depuis le début de la saison prêté à Southampton, où il n'a joué que 4 rencontres. Ancien joueur de Metz, Burnley et Lyon, il a remporté la Ligue Europa Conference en 2023 avec le club londonien. Âgé de 28 ans, il compte aussi 31 sélections pour 6 buts avec les éléphants. Le Genoa, entraîné depuis fin novembre par le français Patrick Vieira, est actuellement 12e de Serie A. Le club le plus ancien de football d'Italie a été racheté en décembre par l'homme d'affaires romain Dan Suku au fonds d'investissement controversé américain 777 Partners. Selon la presse locale, le club souhaite mettre fin au contrat de l'ex-attaquant international italien Mario Balotelli, écarté par Vieira et qui n'a joué que 57 minutes depuis son arrivée en octobre 2024.
Ligue des champions reprend ses droits ce soir en Europe.
Entre autres rencontres, un point suffit au leader Liverpool de Mohamed Salah contre Lille pour assurer sa place en huitième de finale. Autre équipe en verbe en Europe, le FC Barcelone, deuxième avec 15 points, sera en Lisbonne chez le Benfica, 15e, avec une qualification pour les huitièmes de finale également à portée de main, histoire de faire oublier ses malheurs en Liga où il enchaîne les contre-performances depuis fin 2024. De son côté, l'Atlético Madrid de Diego Simeone défie mardi le Bayer Leverkusen du Burkinabé Edmond Tapsoba, machine collective tournée vers l'attaque pour se rapprocher des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une authentique opposition de style pour deux équipes bien placées dans la course au top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes, à deux journées de la fin de la phase de groupe. Jusqu'à samedi dernier, l'Atlético Madrid, 11e et 12 points, et le Bayern Leverkusen, 4e et 13 points, étaient les formations les plus en forme d'Europe, avec une série de 15 victoires consécutives stoppées par Leganés en Liga 1-0 d'un côté et un 12e succès d'affilée glané en Bundesliga contre Mönchengladbach, 3-1 de l'autre.
La NBA est de retour à Paris et Wemby veut rendre au public français.
De retour lundi à Paris pour deux matchs de NBA avec les Spurs contre les Indiana Pacers jeudi et samedi, Victor Wembanyama vit déjà un moment incroyable, lui qui espère rendre au public français ce qu'il lui a donné cette semaine. Accueilli par une trentaine de jeunes de l'association parisienne All Parisian Games, vêtu d'un t-shirt floqué du numéro 1 du français sur les épaules, Victor Wembanyama a enchaîné les autographes et les selfies aux côtés d'un autre de ses coéquipiers fortement acclamé, Chris Paul. C'est un peu surréaliste de voir tous mes coéquipiers dans cette salle, là où j'ai passé tellement de temps, décrit Victor Wembanyama. L'intérieur de 21 ans, désigné meilleur débutant rookie de la Ligue la saison dernière, dit voir dans ce retour un peu une manière de rendre au public français, de faire plaisir aux gens qui n'auront jamais eu l'occasion de venir aux États-Unis.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Après son investiture, le président Donald Trump assistera aujourd'hui mardi à la cérémonie de prière traditionnelle le matin à la cathédrale nationale de Washington. Yacouba Ouédraogo a recueilli les réactions des Américains venus des quatre coins des États-Unis pour suivre l'investiture.
Nous sommes venus pour l'investiture. Nous avons vu cet événement historique et nous voulions en faire partie.
Je pense que c'est très intéressant, très intéressant. J'ai donc conduit ma voiture de New York jusqu'ici.
Nous étions censés être là-haut. Nous voulions le voir, mais nous en faisons toujours partie. Vous savez, vous êtes là. Nous faisons ceci. Nous ne l'aurions pas fait autrement.
C'est quelqu'un de bien. Tout ce qu'il a dit pendant son mandat précédent, il l'a fait, n'est-ce pas? Il a fait tout ce qu'il avait promis, il l'a fait. Ils ont tout fait à cet homme, ce pauvre homme. Je suis reconnaissant qu'il se soit vraiment levé et qu'il leur ait écrasé le visage sur le sol.
C'est à peu près la même chose que le premier mandat de Trump. Il s'agit de relancer l'économie et évidemment l'immigration est un sujet dont tout le monde parle beaucoup. Ce serait un autre sujet, mais pour moi, en tant que chef d'entreprise, c'est l'économie.
Il s'agit de pouvoir vivre à un niveau abordable. Je suis une mère célibataire avec deux enfants. La vie est dure et j'ai hâte de pouvoir me payer des courses sans avoir à me soucier de faire des économies jusqu'à la prochaine paye.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum est consacré au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en tant que 47e président des États-Unis après une absence de 4 ans. L'âge d'or de l'Amérique commence, a-t-il proclamé lors de son discours d'investiture lundi. Il a notamment promis des droits de douane et des taxes aux pays étrangers et décrété l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. À quoi s'attendre du second mandat de Donald Trump? Quelle place pour l'Afrique dans la nouvelle politique étrangère américaine? Laissez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
Au Mali, les avis des uns et des autres divergent par rapport au nouveau mandat du président Donald Trump. Les propos ont été recueillis par Mohamed Danyoko.
Donald Trump doit quand même faire en sorte que les pays du Sahel, surtout en tant que Maliens dans notre nouveau contexte qui est le contexte de l'AES, cette confédération, il doit normalement tenir compte des avancées, tenir compte des propositions de la situation, surtout que le Mali est un pays sahélien et de la réalité d'insécurité que nous vivons pour que la coopération bilatérale puisse nous aider.
C'est ce que la coopération Mali bilatérale, bon, l'aéroport est autour pour fixer. Parce qu'il n'y aura pas de changement majeur. Le Trump, les Américains, les États-Unis, bon, ne s'intéressent pas tellement à l'Afrique, quoi. Par rapport à, ces, à l'économie, qu'on soit, ce n'est pas la peur. Et le gouvernement des affaires étrangères, oui. Mais en ce qui concerne la coopération économique, ce n'est pas l'affaire, quoi. L'Afrique, tellement pas.
Et je souhaite une très bonne collaboration avec les États-Unis, car c'est une grande puissance mondiale. Et actuellement, le Mali a besoin d'un partenaire comme les États-Unis, un partenariat gagnant-gagnant. Et nous souhaitons vraiment bon vent à Donald Trump.
Donald Trump, c'est le président des Américains, hein. Ça, il faut le dire parce que c'est l'un des plus conservateurs. Nous, Africains, notamment le Mali, nous n'attendons pas grand-chose avec lui parce que la situation du Sahel est telle qu'elle est. Avec des militaires au pouvoir, nous n'attendons pas grand-chose avec Donald Trump.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Notre correspondant au Sénégal, Warani Johnson Sambou, a également tendu le micro aux Sénégalais qui se sont exprimés au nouveau mandat de Donald Trump.
Je pense qu'avec Donald Trump, le seul problème qu'on aura, c'est lié à l'immigration. Parce que beaucoup d'Africains, de jeunes Africains, quittent le continent africain et rentrent clandestinement aux États-Unis, ce que je trouve déjà anormal. Et j'adhère carrément à la politique de Donald Trump dans ce sens.
Donald Trump, c'est quelqu'un qui prône l'Amérique aux Américains, donc je ne pense pas qu'on puisse attendre beaucoup de choses de lui, honnêtement. Et je pense qu'il y a des raisons d'avoir peur, parce qu'avec l'immigration qui avance et qui atteint une exponence et tout, je pense qu'il faut bien avoir peur par rapport à son discours et le fait, encore une fois, qu'il prône que le pays est au... que le pays est au nationaliste, en fait.
Alors, du point de vue de l'Afrique, peut-être qu'il faut voir un peu la coopération qu'il y a entre les États-Unis et le continent africain. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être avoir un peu peur, parce que d'abord, il y a, comme on le sait, ce qu'on appelle l'AGOA, et on sait que cet accord-là va prendre fin en 2025. Et Trump, lors de son mandat précédent, en tout cas de son mandat précédent avant, en 2016, avait promis, en tout cas en fin 2020, avait promis que lorsque cet accord sera arrivé à sa maturité, bon, il va pas le renouveler. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer que les rapports économiques entre les États-Unis et l'Afrique pourraient souffrir un peu, en tout cas si Trump venait à mettre en pratique, en tout cas, ses promesses électorales, tout à fait.
Lors de son premier mandat, il avait en tout cas un comportement très belligérant vis-à-vis des Africains. C'était quoi? Les Africains sont des pays de merde. Étant des pays de merde, lors du premier mandat, je ne pense pas que cela soit en tout cas vu d'une autre manière. Mais je ne pense pas que cela soit changé lors de son deuxième mandat. Ce qui constitue en quelque sorte une continuité. Donc considérons que la réélection de Donald Trump n'est rien d'autre qu'une continuité de la politique étrangère américaine sous d'autres formes.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
De la sécurité au paysage politique,
de la liberté d'expression aux droits civiques,
de l'éducation au divertissement,
des questions sociales à l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Pour certains Camerounais, le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis fait bouger le monde et risque d'apporter un grand changement dans la politique internationale de plusieurs régions du monde. Mais pour d'autres, Donald Trump sera un président qui se focalisera plus sur les préoccupations des Américains, comme il l'a lui-même souvent exprimé. Ils étaient au micro de notre correspondant Jules Tappe.
L'arrivée de Donald Trump va changer beaucoup de choses, même psychologiquement. Vous voyez déjà, ça commence à partir de l'Europe, où les Européens se réunissent au Moyen-Orient, Bajdoula, le monde bouge à cause de Donald Trump. Et nous avons l'espoir que Dieu va toucher, Dieu va l'utiliser pour arranger beaucoup de choses dans le monde.
Avec son investiture Louvain, sa politique d'homme d'affaires qu'il a, nous, Africains, précisément Camerounais, nous pensons que il aura une politique déjà, il va penser au bas peuple, c'est-à-dire les choses pourront redevenir à la normale.
Les quatre années de Joe Biden ont été très violentes en ce qui concerne la politique internationale. Et également le conflit israélo-palestinien, le conflit russe-Ukraine a été très violent et le monde a subi un très grand coup. Je crois qu'avec l'arrivée de Donald Trump, il va plus travailler pour les Américains. D'ailleurs, il dit qu'il travaille pour les Américains qu'on a oubliés. Il ne va pas beaucoup s'intéresser à la politique internationale.
Ma principale attente envers le nouveau président de l'Amérique est qu'il puisse promouvoir plus de bourses dans le pays. Si vous voulez plus de promouvoir plus de bourses, et dans les pays africains plus isolés, si vous voulez promouvoir l'Afrique.
En tout cas, nous, on n'attend rien des présidents américains parce que on a vu Obama, quand Obama était au pouvoir, on se disait que voilà un Africain qui est venu aux affaires et il va essayer d'aider l'Afrique par rapport à beaucoup de choses, par rapport à la jeunesse africaine, mais on se dit toujours que ces gens-là préservent d'abord leurs intérêts personnels. donc des intérêts des Américains, non des Africains.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.